Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les fous du volant, un rendez-vous un petit peu particulier aujourd'hui avec Stéphane Vrignot. On va recevoir un grand monsieur de l'endurance française.
Une légende parmi les légendes de 24 heures du Mans.
Exactement. Benoît Trélullier qui est déjà introduit dans la confrérie des fous du volant. Triple vainqueur des 24 heures du Mans. On va parler avec lui de beaucoup de choses finalement assez historiques hein, sur sa carrière, sur sa relation avec les 24 heures du Mans.
Quelqu'un qui est vraiment fondamentalement dans l'esprit des 24 heures du Mans et avec qui a formé un trio avec André Lotterer et Marcel Fassler, qui était un trio, je dirais, de camaraderie. Quand on lit les interviews, quand ils nous en parlaient aussi, c'est qu'ils passaient leur temps à rigoler et c'était sérieux quand ils bossaient, mais ils étaient soudés et ils travaillaient, chacun travaillait pour les deux autres. C'était vraiment l'esprit des 24 heures du Mans. C'est pour ça qu'on tenait à l'avoir spécialement et on va voir ce qu'il va nous dire.
Exactement. Allez, on se connecte avec le triple vainqueur des 24 heures du Mans, Benoît Trélullier. Allez, comme promis, on se connecte avec donc un grand monsieur de l'endurance, Benoît Trélullier, triple vainqueur des 24 heures du Mans 2011, 2012, 2014, avec une séquence quand même de 5 podiums en 6 ans, champion du monde aussi d'endurance en 2012. Je vais m'arrêter là parce que Benoît, il fait déjà partie de la confrérie des fous du volant. On l'a déjà reçu. Bonjour, ça va bien ?
Bonjour et vous, ça va très bien.
Bonjour Benoît.
Eh ben ça va plutôt bien. On se rapproche hein, de semaine en semaine de l'édition du centenaire des 24 heures du Mans. C'est pour ça qu'on essaye vraiment d'avoir des gens qui ont joué un rôle dans cet événement. Alors Benoît, toi tu seras au Mans le week-end des 10 et 11, mais malheureusement pas sur la grille de départ.
Oui, exactement. J'y serai comme tous les ans. J'ai dû louper qu'une fois parce que j'avais une course et que je pouvais pas y aller et pendant le confinement. Sinon, ouais, j'y serai bien sûr et pour les 100 ans, même si j'ai essayé un petit peu d'y être à bord d'une voiture, mais l'occasion ne s'est pas présentée.
Mais alors, c'est quand même incroyable qu'un garçon comme Benoît Trélullier, avec trois victoires, la réputation, et t'as pas réussi à trouver un volant. Tu demandes trop d'argent.
En fait, j'ai essayé, mais je me suis pas battu pour, on va dire. Après, je suis allé l'année dernière prospecter un petit peu, on va dire, et pour donner un peu mon intention à plusieurs teams. Après, il s'avère que j'ai quand même ma dernière course au Mans, c'était en 2016, ma dernière participation. Ça fait maintenant depuis 2018 que je ne fais que du développement et plus de courses, ou très occasionnellement pour remplacer. Je suis toujours classé Platinum, ce qui est un problème en soi, puisque après vous avez des pilotes Silver qui se débrouillent très bien et qui apportent des budgets, et un pilote comme moi qui va avoir qui a 46 ans et qui ne veut pas apporter de budget parce que bien sûr c'est mon métier et je ne vais pas payer pour travailler, c'est compliqué. Il s'avère que c'est quand même assez compliqué.
Stéphane, on attaque la première question, la première vraie question, parce que là on bavardait.
Oui. L'histoire de Benoît, finalement, c'est l'histoire qu'on aime aux 24 heures du Mans, parce que c'est 3 victoires avec deux coéquipiers qui formaient, une petite confrérie. On aime cet aspect un petit peu de la convivialité. L'esprit du Mans, c'est vraiment rouler aussi pour ses coéquipiers. Et à ce titre-là, c'est l'histoire parfaite avec Marcel Fassler et André Lotterer.
Comment ça s'est constitué, ce trio ? Parce que toi, tu étais chez Pescarolo auparavant, mm-hmm. et puis d'un seul coup, tu t'es retrouvé avec André et Marcel chez Audi.
Alors en fait, avec André, on roulait ensemble au Japon. Alors pas dans la même voiture, on roulait l'un contre l'autre et on se tirait des bonnes bourres, on va dire. Et on était super potes. Je lui parlais toujours du Mans. Et en 2000, je crois que c'est 2009, je l'ai tellement tanné avec le Mans qu'il a fini par essayer de trouver un volant. Il a trouvé un volant chez Colles, donc sur une Audi c'était une R10, il me semble, à l'époque. Et il a fait une très belle performance. Et il s'est fait remarquer parce qu'en fait, un de ses coéquipiers, qui était Naren Kartikeyan, qui s'est blessé en passant par-dessus le muret juste avant le départ. Donc, impossible de le remplacer. Donc, ils ont fait les 24 heures à deux. Et André a vraiment sorti une performance qui était assez incroyable, surtout pour ses premières 24 heures du Mans. Donc, Audi l'a repéré. On était déjà en contact avec Audi, ce qui nous avait contacté pour faire du DTM. C'était une amie journaliste qui leur avait parlé de nous. Moi, quand ils m'ont contacté, je venais d'arriver en tant que pilote numéro un chez Nissan au Japon. Donc, j'avais décliné l'invitation en leur disant que bah, ça ne servait à rien de dépenser de l'argent pour me tester, pour faire du DTM, parce que j'avais une place qui était meilleure que ce qu'ils allaient m'offrir sans les offenser, quoi. Donc une meilleure place au Japon que ce qu'ils pouvaient m'offrir en DTM. Et je leur avais dit, économisez votre argent, je ne vais pas venir juste pour m'amuser et rouler avec votre DTM. Donc, mais si un jour vous avez une autre proposition, n'hésitez pas à me contacter, ce sera un honneur de rouler pour vous. Et il s'est avéré que 2 ans après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà, on aimerait te faire rouler. Je lui ai dit, dans quoi? Ils m'ont dit, Le Mans, aux 24 heures du Mans. Et là, j'ai fait, ouais, je suis d'accord. Donc là, et en fait, c'est tombé pile poil parce que j'avais prévu d'arrêter la Formule Nippon. Pour pouvoir me consacrer un peu plus à des courses européennes et en l'occurrence avec Henri, avec le team d'Henri. Et quand ils m'ont contacté, j'ai tout de suite appelé Henri. J'ai dit, écoute, Henri, j'ai un petit problème.
Henri Pescarolo, hein, je dis ça pour ceux qui
Henri
sont pas au fait.
Pescarolo. Et j'ai dit, il y a Audi qui m'a contacté pour rouler chez eux. Et ben alors? Ben, ça m'embête, quoi. Il me dit, qu'est-ce que ça t'embête pas du tout. Il dit, t'es fou, faut accepter. Et donc, voilà, ça a été, je voulais lui demander si je pouvais éventuellement faire un test. Il m'a dit, non, mais accepte. Et ça a été vraiment aucun souci. Et Henri, c'est ce qui est génial avec Henri, c'est qu'il était vraiment là pour nous aider à pouvoir progresser et à évoluer
Grandir.
dans l'automobile. Et il n'était pas juste là pour nous garder et essayer de gagner Le Mans avec ses pilotes. Ouais, il était vraiment ouvert. Et puis il pouvait avoir un panel de pilotes assez incroyable, Henri. Donc voilà. C'est comme ça que c'est arrivé.
Alors, j'étais la semaine dernière avec Philippe Albuquerque, un ancien aussi de chez Audi,
Exactement.
parce que j'ai essayé le simulateur chez AOTEC. Et Philippe me disait, moi, je suis un ancien élève de l'école Ulrich, c'est-à-dire que le docteur Ulrich, il avait une certaine science pour composer les équipages en ne se concentrant pas que sur les chronos, mais sur l'attitude, sur l'échange entre les pilotes. Toi, tu es plutôt un élève de l'école Pescarolo. Il a fallu t'adapter ou il parlait le même langage les deux?
Ouais, il parlait un peu le même langage, même si Henri n'apprécie pas particulièrement ce qui s'est passé sur les réglementations avec Audi, etc. Mais non, mais c'était ces 2 hommes très humains hein, qui adorent leur pilote, qui font tout pour leur pilote. Donc non, ça reste vraiment pareil. Après, Docteur Ulrich, il a essayé plusieurs façons aussi. Hein, c'est comme ça qu'on y arrive. Mais nous, ça a été typiquement, il a choisi ces 3 pilotes en se disant, ils vont bien s'entendre. Il pensait pas à quel point. Bon, il savait qu'André et moi, on était déjà potes. Marcel, je m'entendais bien avec lui, mais on s'était pas vu depuis très longtemps, parce qu'il a fait carrière en Europe et moi au Japon. Mais on avait débuté en Formule Campus, on a fait la Formule Renault, la F3 ensemble, donc on se connaissait bien déjà, on s'appréciait. Et quand on s'est retrouvés tous les 3 pour la première fois pour les tests à Sebring, le voyage dans la voiture de Locke, on s'est retrouvés tous là-bas et on a pris la voiture de Locke, on est montés tous les 3, on a rigolé tout le trajet et voilà, ça a été des anecdotes et ça s'est passé de suite.
Alors, comment est-ce que vous voyez à l'époque justement cette Armada Audi qui est la référence, qui est une équipe d'usine avec un budget extraordinaire, on va parler à peu près de 80 millions d'euros. Henri avait à peu près 8 fois moins, 9 fois moins, 10 fois moins de budget. Sachant que l'histoire s'est toujours terminée malheureusement de la même façon. Et à la fin, c'est le docteur Ulrich qui disait Pescarolo nous a fait peur, mais on est parvenu à gagner. Est-ce que on n'y croyait pas tellement, est-ce que c'était une forme de politesse ou est-ce que c'était un petit peu la réalité, parce qu'il y avait un tel écart en termes de préparation, d'approche, que ça devait se terminer à chaque fois comme ça?
Ouais, je pense qu'il y a eu quand même des années où Henri aurait dû gagner, Henri vous le dira. Malheureusement, c'était des années où je n'étais pas dans la voiture, hein. J'avais été remplacé par un pilote assez connu, hein, Sébastien Loeb. On était tous les deux pilotes PlayStation. Et c'est sûr que le buzz était beaucoup plus important avec un Loeb qu'avec un Tréluyer à l'époque. Ce le serait toujours d'ailleurs. Mais voilà, ces années-là, je pense qu'Henri aurait dû gagner. Je pense que la réglementation était clairement assez avantageuse pour Pescarolo, même si elle ne l'était pas autant qu'elle a pu l'être pour Audi pendant des années, on va dire. L'équilibre était fait parce que voilà, il y avait des énormes budgets du côté Audi et beaucoup moins importants du côté des privés comme Henri. Donc la CO avait réussi à faire quelque chose. Mais après, si la CO voulait aussi attirer d'autres constructeurs, il ne fallait pas non plus trop avantager les privés. Mais c'est sûr que la préparation était complètement différente. C'était alors, pas les mêmes budgets, mais c'était pas la même façon de travailler non plus. Les deux étaient très très bonnes. Je pense que chez Pescarolo, il avait une équipe de dingue, avec des mécanos, des ingénieurs, que des passionnés. Je ne dis pas que Claudine n'était pas passionné, hein, mais...
Il y avait vraiment un côté famille.
C'était vraiment une famille, quoi, avec Maddy, avec Henri, avec... Voilà, c'était avec le petit Stéphane, avec tout le monde. Moi, je les connais. En plus, c'est des personnes que je connais depuis que je suis arrivé dans le sport auto, que j'avais 17 ans, quoi. Donc, voilà, c'était une famille. Mais on pouvait pas se permettre de faire les mêmes choix. On allait toujours un peu à tâtons. On se disait bon bah on espère que ça va tenir, mais on n'avait pas les mêmes essais préparatoires. Chez Audi, quand je suis arrivé, on allait faire des séances de roulage de 30 heures. Il y avait une pièce qui pétait, ils refaisaient la voiture complète et on recommençait. On allait faire des simulations de changement de turbo. Je me rappelle, c'est en Allemagne de l'Est à l'époque. On allait rouler sur un espèce d'aérodrome, on roulait, puis d'un seul coup, le docteur Ulrich ou les ingénieurs, ils disaient problème turbo, on change de turbo à chaud, tu vois, et ils s'entraînaient dans les conditions réelles de température, moteur, etc., de changer les turbos pour savoir quel problème ils allaient rencontrer. À la fin, ils avaient refait des pits du Mans, quoi, dans les locaux Audi, au bord de la piste d'essai, voilà, c'était des moyens qui étaient complètement différents. Mais attention, vous avez un constructeur derrière avec des vrais enjeux, l'image d'Audi. Il faut savoir que Audi aujourd'hui a une telle image de fiabilité, de qualité, c'est tout ça, c'est dû au Mans, même si c'est impossible à quantifier, c'est réellement dû au résultat du Mans et à ce qu'a pu représenter Audi aux 24 heures du Mans pour les téléspectateurs et les spectateurs.
Et la première année, l'année de leur première victoire en 2000, ils sont vraiment prêts pour ouvrir toute cette saga, toute cette période de succès. Audi change une boîte de vitesse en 5 minutes. Et là, vous comprenez qu'on est sur notre planète. Là.
J'ai encore revu Émile, qui était le responsable des boîtes de vitesse à l'époque. Non, voilà, c'est... Mais là, c'est vraiment... Il y a beaucoup de moyens humains et intellectuels qui sont sollicités chez Audi. Il y avait énormément d'ingénieurs. Alors, quand je suis arrivé en 2010, ils étaient à peu près 150. Je suppose qu'en 2000, ils étaient un peu moins. Ils devaient être à peu près entre 80 et 100 personnes. Je connais pas les détails. Mais en fait, il y avait. C'est comme pour les règlements. Vous avez la FIA et la CO. Et ils vont être une dizaine de personnes à se pencher sur le règlement. Quand vous avez par constructeur une cinquantaine d'ingénieurs qui vont se pencher pour détourner le règlement que 10 ingénieurs ont fait, ils peuvent tous être les plus brillants à la FIA et à la CO. Quand vous en avez le double ou triple ou quadruple qui travaillent derrière pour essayer de contourner leur règlement,
tu fais pas le poids.
Ça fait pas le poids. Et c'était la même chose chez Audi par rapport à des teams privés comme Henri.
Alors ça c'est la préparation en amont. Mais il y a aussi tous les plans de course qui sont prêts. Et je dirais que Audi s'est rapproché des standards de la Formule 1 parce que vous vous apercevez que en termes de stratégie, tout ce qui peut arriver en piste, safety car, etc., accident, c'est déjà prévu Et il y a des scénarios qui sont applicables directement et vous les connaissez. C'est ça qui est stupéfiant.
Avant que tu répondes, Benoît, il faut aussi signaler que chez Audi, on s'est basé sur la connaissance de Reynolds Yost pour faire l'équipe. Ce que d'autres constructeurs, y compris français, n'ont pas totalement voulu faire en s'appuyant, par exemple, ils auraient pu, sur un Henri Pescarolo. C'est peut-être un peu la nuance, non ?
Exactement. Bah après, c'est une façon de voir les choses. Mais après, il y a des constructeurs qui veulent garder la main mise et qui se dit, s'il y a quelqu'un comme Henri qui arrive et qui leur dit comment il faut faire, ça ne leur plaît pas. C'est une histoire d'homme. Hein. Et en France, on a un peu de mal avec ça. Donc, chacun tire la couverture et de son côté, au cas où il gagne, c'est moi. Tu vois. Donc, le problème d'un personnage comme Henri, je pense que c'est qu'il a une telle aura vis-à-vis des spectateurs, il aurait pris le dessus par rapport à une marque. Ouais. Et je pense que les marques, c'est un peu pour ça. Une marque comme Peugeot, où, voilà, ils ont essayé un petit peu, mais vraiment, ils ont laissé, quand ils ont pris ils ont donné la 908 à Henri, bon, c'était dans son team, à Oreca, c'était dans son team aussi, mais il s'avère que l'Oreca, bah, ils ont gagné à Sebring, et puis au Mans, ils étaient à une heure de gagner en 2010 aussi, donc, oui, il aurait fallu, et d'ailleurs, Toyota l'a fait avec Oreca.
Exactement.
Toyota, voilà. Donc, je pense, oui, il y a eu des erreurs et il y en a toujours. c'est vrai que ça peut faire de l'ombre d'avoir un tel personnage, mais il ne faut pas oublier l'objectif principal.
Parce que
peut-être gagner.
Ce que je voulais dire par là, c'est que vous développez une culture de la stratégie chez Audi directement. Mmh. Et le but, finalement, c'est presque de gagner à la moyenne horaire la plus faible, parce que si on va un petit peu plus vite que ce qu'il faut, on tape dans la mécanique et on s'aperçoit que la stratégie, c'est un vrai outil pour mettre en difficulté aussi les autres sans trop dévoiler ses batteries, quoi.
Oui, bon, après, il faut savoir que avant d'arriver au Mans, la voiture, elle a fait des kilomètres, donc elle a fait des simulations de 30 heures et on sait à peu près ce qui risque de casser si on en rajoute, voilà. Donc il faut savoir par exemple qu'en 2010 on était à 4 secondes au tour en performance pure des Peugeot. On avait essayé une version qui était un peu plus puissante, qui n'a pas cassé en essai, mais après le démontage et etc., ils ont vu que voilà, on était au bout du bout et il n'aurait pas fallu 10 heures de plus, quoi. Donc c'était un peu risqué. Donc là, en fait, la marge de risque que pouvait prendre Audi était beaucoup plus importante à l'époque que Peugeot ou d'autres marques. Et la performance, c'était bien sûr important, mais comme on dit toujours, pour gagner, il faut finir. Déjà, c'est la première des règles. Donc, et Audi l'avait bien compris. Et je me rappelle bien, donc en 2010, donc ce moteur qui nous aurait donné nous aurait fait gagner au moins 2 secondes faciles. Le responsable moteur à l'époque nous avait dit c'est hors de question. C'était la seule personne qui était contre de mettre ce moteur pour les 24 heures alors qu'on l'avait déjà testé. Hein, et au pré-qualif, on savait, on avait 2 semaines hein, pour mettre le bon moteur. Hein. C'était prêt, hein, on aurait pu. Hein.
T'as un grand monsieur avec des lunettes, non ?
Voilà, c'est comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom, mais
pareil.
ça va me revenir. Et mais c'est voilà. Et donc lui, je me rappelle, on avait eu un meeting avec Dr Ulrich qui lui était pour avoir ce moteur tout le monde, hein, parce que 4 secondes, ça fait mal quand même.
Ouais.
Et lui, c'est notre première année et Baresky, voilà. Et
Ulrich Baresky.
Baresky a dit que c'est hors de question. Il y a trop de risques de casser un moteur, hors de question de casser un moteur. Ils n'ont jamais cassé un moteur, Audi. Hein. Et donc, nous, on part à la course, on a 4 secondes au tour, on va morfler, mais grave, ça va être dur. Et en fait, il s'est avéré qu'il y a eu déjà une Peugeot qui a cassé un châssis, et puis après, les 3 autres qui restaient, elles ont cassé, les 3 ont cassé le moteur.
Ouais.
Ce jour-là, Baresky est devenu le dieu d'Audi, parce qu'il avait, dit non, il y a trop de risques. Peugeot se retrouve avec 3 voitures DNF, quoi. Ouais. 4 voitures DNF. Donc c'est voilà. Oh. C'est la stratégie, elle est là. Et il y a d'autres stratégies. Il y a eu par exemple en 2011 quand on se retrouve tout seul, qu'on a testé en amont au circuit des 24 heures du Mans, qu'on a fait les qualifs avec des vieux pneus, qu'on sait qu'on peut faire 5 relais. On les a pas fait hein, pour pas dévoiler notre stratégie, mais on sait qu'on peut faire 5 relais avec les pneus, que c'est tendu, mais on sait qu'on peut le faire. Personne ne le sait, parce que nous, on n'a fait que 4 relais avec nos pneus en essai. Et du coup, on a, au cas où il y a un safety car à telle heure ou telle heure, on peut tenter une double stratégie de 5 relais avec les pneus. Et ça tombe, mais à 10 minutes près, ça tombe pile poil dans la fenêtre. Mais c'est un truc sur 24 heures. C'est quelque chose qui ne peut pas arriver. Mais tu es dans un team traditionnel, on va dire, personne ne prévoit ce genre de choses. Eux, ils prévoyaient tout. C'était un truc de fou. Il y avait, s'il arrive ça, à telle heure, à telle heure, à telle heure. Il y a des fenêtres de tir, on va dire.
Et c'est comme ça qu'on gagne de 11 ou 13 secondes, quelque chose comme
13
ça.
13 secondes. Ouais,
mais, et puis, on vous réveille aussi en plein sommeil pour aller faire un quatuple relais.
Et puis, il faut savoir quand même qu'on prévoit ça, ce qui paraît un peu fou quand même, hein, de dire 5 relais, 2 fois 5 relais, pour gagner à la fin 20 secondes.
C'est 3h45 de pilotage, hein. Sans concession.
Quand ils nous disent, ça, voilà, au cas où il arrive ça, tu es dans le briefing avant la course, tu dis, c'est des et 20 secondes, les mecs qui se prennent la tête pour 20 secondes, et en fait, on gagne grâce à ça. Quoi. C'est un truc de fou.
On se posait la question avec Stéphane, comment est-ce qu'on se répartit les rôles dans un équipage, surtout quand on a André Lotterer, Marcel Fassler, qui sont pas des. Je veux dire, t'es pas arrivé en te disant, bon, je suis le meilleur des trois, c'est moi qui choisis, quoi. Comment ça se répartit?
Ça a été notre gros avantage, en fait, c'est qu'on n'avait pas un problème d'ego dans notre équipage. On était potes, et puis il est arrivé que André soit pas en forme, et ben tant pis, c'est les deux autres assurés derrière. C'est un coup c'était Marcel, un coup c'était moi. Voilà, et on était toujours là pour aider les deux autres ou l'autre. Et André, lui, par exemple, au fil du temps, on s'est aperçu qu'il adorait montrer sa vitesse. Il adorait faire les qualifications, faire le meilleur tour en course. T'as qu'à faire ça. Nous, avec Marseille, on était plus vieux, on avait 50 plus. On s'en foutait un peu. Nous, ce qu'on voulait, c'est être sur la plus haute marche du podium et avoir le meilleur tour en course et faire la pole. C'était pas, on ne courait pas spécialement après. Nous, si on voulait, c'était gagner et faire la fête après.
Alors, il y a un autre challenge quand même aussi au Mans qui est fondamental, c'est piloter de nuit, piloter sous la pluie. Est-ce que l'un de vous trois aussi avait un petit peu plus d'aptitude là-dessus? L'année dernière, on recevait Sébastien Buemi qui nous a dit, quand Fernando Alonso est arrivé, on a réalisé tout de suite qu'il avait une capacité incroyable à faire chauffer les pneus. On l'a tout de suite mis sur les relais de nuit parce qu'il était plus performant. Voilà. C'est des petites choses comme ça qui fait qu'on apporte un plus qui fait la différence et chacun, on met ses petits plus bout à bout et ça fait quelque chose de super.
Exactement, mais c'est ça, c'est mettre en avant les qualités de chacun, pas de dire que c'est le meilleur, c'est juste que là, ah bah lui, là, il est bon là-dessus, l'autre, il est bon là-dessus, et voilà, et l'ingénieur et les stratégistes doivent savoir communiquer avec leur pilote et leur faire comprendre que voilà, ce pilote-là, bah, il est mieux ici, puis toi, t'es mieux là, et puis faire cette petite recette qui fait que tout le monde est content et que le but, ben voilà, c'est de monter sur la plus haute marche.
Mais de nuit quand même, parce que ce qui est fabuleux au Mans, c'est que c'est un circuit qui se recompose, qui se transforme d'heure en heure sur toute cette journée. Alors, à quoi ressemble le circuit la nuit? Quelle perception on en a? Qu'est-ce qu'il faut changer dans son attitude? On ressent peut-être un petit peu plus la solitude, on a moins de communication avec les autres. Comment ça se passe? Parce qu'on n'a pas ce contact déjà avec le public.
Ouais, ben voilà. Alors, il y a ça. Il y a un peu de solitude pour certains qui aiment bien parler avec l'ingénieur. Je me rappelle qu'André, lui, il aimait bien qu'on lui parle tout le temps, qu'on lui donne des nouvelles. Moi, j'aimais bien être peinard. Voilà. Donc, moi, je roulais, j'étais dans mon. En fait, j'ai besoin de concentration. Je ne sais pas faire deux choses à la fois. Voilà, moi, la nuit, ça me plaisait parce que j'étais au calme, parce que t'as moins de paramètres extérieurs qui rentrent dans ton champ visuel, et puis tu te fais tes petits repères. Moi, par exemple, j'ai le Delta Time, ce qu'on appelle Delta Time, on sait si on est en avance ou en retard sur le temps idéal ou sur notre meilleur temps. Et donc, voilà, moi, j'essayais d'être précis et pour garder ma concentration. C'était d'essayer de faire les relais les plus précis possibles. Et donc, j'avais toujours une marge de sécurité. Des fois, ça m'amusait. J'avais perdu du temps derrière une GT. Ben, j'attaquais un peu plus. Alors, des fois, ça, c'est une connerie. Il faut éviter de trop le faire quand même. Mais pour essayer d'être dans le même dixième, je m'amusais. Et en fait, je m'amusais à piloter, mais je m'amusais à être précis. Et donc, j'avais toujours des relais qui étaient hyper constants parce que c'était mon jeu, c'était ma façon de me concentrer mais de garder la concentration extrême, parce que le plus dur là-dedans, quand vous êtes en pleine solitude pendant la nuit, c'est de rester concentré.
Ben, le temps passe, il faut qu'on avance. Deux choses. La première, tu vas rerouler quand même au Mans avec la R18 avec laquelle tu as gagné. Bon, toi, je te sens pas trop dans la nostalgie, mais là, ça va faire quelque chose quand même.
Si, je vieillis comme tout le monde. C'est quand tu vieillis que tu as de la nostalgie. Tu peux pas en avoir quand tu es jeune. J'ai eu la chance déjà de rerouler avec il y a pas longtemps parce qu'on a vérifié les voitures. Ils m'ont demandé de venir pour les tester, pour voir si tout marchait. Il faut savoir que les voitures qui vont rouler au Mans, c'est les voitures qui ont gagné.
C'est les châssis qui ont gagné, quoi.
C'est les châssis qui ont gagné, qui n'ont pas été lavés.
Ah, wow.
Donc, les voitures sont dans l'état dans lequel elles ont fini les 24 heures du Mans. Donc, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que je suis remonté dedans. On avait reroulé après la course en démonstration à l'usine et tout. Mais la voiture, elle est encore sale de l'époque. Il y a encore tous les petits trucs qu'on avait fait, les petites modifs, et tu rentres dedans aussi. Je suis hyper nostalgique, t'es fou.
Benoît, je pose cette question finalement un petit peu générique. Qu'est-ce qui fait la magie du Mans ?
La magie du Mans, ben, c'est une course qui est préparée pendant un an. Ben, bien sûr, elle fait 24 heures, c'est deux nuits, c'est sur route ouverte. C'est une ambiance dans le paddock qui dure plusieurs semaines. Alors ça s'est rétréci un peu depuis un moment. C'est une autre dimension de circuit, c'est une autre dimension d'organisation, de paddock, de voilà. Le Mans, c'est pas seulement la course, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est la parade des pilotes, c'est tellement de choses en fait. C'est unique.
Ton favori, toi, est-ce que tu penses que Toyota peut être battu?
Je pense oui. Honnêtement, au Mans, ils sont les favoris, c'est sûr, de loin. Mais je pense que Ferrari est pas loin derrière. Ils ont fait voir une pointe de vitesse. Ils ont eu des soucis, mais c'est des soucis de jeunesse qui peuvent malheureusement encore arriver au Mans. Hein. Mais je pense qu'ils ont intérêt de faire attention. La chose, c'est que eux, ils sont bien préparés parce que ça fait quand même plusieurs années qu'ils roulent avec leur voiture, même si c'est une évolution. Ils n'ont jamais arrêté les 24 heures, alors que Porsche a arrêté, que c'est plus les mêmes équipes. Là, Toyota s'est rodé, même si je me suis aperçu que ça a beaucoup changé quand même. Les équipes techniques sont plus tout à fait les mêmes. J'ai pu les voir à Spa sur un événement il n'y a pas longtemps. Ils sont ultra favoris, mais ils ne sont pas imbattables. Et Ferrari, à mon avis, attention, hein, je suis pas un expert, puis en plus j'ai pas mal de boulot maintenant et je regarde un peu de loin, j'avoue. Je suis parce que ça m'intéresse, mais j'ai plus l'œil que dans le détail quand t'es dans le paddock. Enfin, je traîne plus dans le paddock, donc. Mais j'ai quand même une vue d'ensemble qui est pas mal. Et des fois, avec plus de recul, on a moins les ragots et on a une meilleure vision. Et je pense que Ferrari n'est pas loin, vraiment. Et s'ils arrivent à être fiables, on est dans une autre dimension. Au moins, c'est ce que je disais, le circuit. Je pense que la Ferrari est très bien née. Et s'ils ne gagnent pas cette année, l'année prochaine, ils seront pas loin d'être les favoris, à mon avis.
Mais pour moi, quand même, il y a un tout petit point d'interrogation sur les pilotes qui ont fait des boulettes ou qui n'ont pas exactement montré un esprit de cohésion pour l'instant. Je vois, il y a eu des boulettes à Sebring, à Portimao, à Spa aussi, sur la dernière. On parle de Pierre Guidi, de Calado, qui n'était pas vraiment pour obéir favorable à une consigne d'équipe, et il l'a clairement montré. Et quand on voit ça, franchement, ça agace, parce qu'on se dit, on court d'abord pour Ferrari. C'est un honneur, et je ne sais pas ce qu'en pensaient les tifosi, mais il faut se remettre un petit peu focus. Giovinazzi aussi a eu quelques difficultés. Et là, on a des pilotes qui viennent d'une catégorie qui est en dessous, le GT, ou d'une autre catégorie, c'est-à-dire la Formule 1. Et là, maintenant, il faut se mettre d'accord sur l'endurance. Et c'est peut-être aussi un petit peu la question qu'on peut se poser au sujet de Ferrari, même si la voiture est quand même assez fiable et assez rapide.
Non, je suis totalement d'accord. La seule chose, c'est qu'ils ont fait des erreurs avant. Et je pense que quand tu arrives au Mans et que tu as fait des boulettes les courses précédentes, je pense que tu te fais petit et ton humilité, elle arrive automatiquement. Si ce n'est pas le cas, ils ne seront pas là l'année prochaine. Moi, je suis le boss. Hein,
non, mais c'est clair là-dessus. C'est clair. Voilà. Ouais.
On verra ça. Merci beaucoup, Benoît Trélier, d'avoir été avec nous encore une fois dans Les Fous du Volant. À très bientôt. De toute façon, on se voit sur le circuit.
Je serai sur le circuit, pas de problème. Parce que même si je regarde de loin le championnat, au moins j'y serai.
Nous aussi.
Merci, Benoît.
Allez, merci.
À bientôt.
Eh bien, comme d'habitude, on est jamais déçus avec Benoît. Alors, pour tout te dire de l'entente entre Marcel Fassler, André Lotterer et Benoît Trélier, il m'est arrivé une fois d'être au Mans. Et bon, là, c'est ma diététicienne qui va me faire la guerre, d'aller manger un kebab et de me retrouver à quelques mètres de ce trio-là qui était assis à une table au fond, dans un coin. Et alors, il se marrait, mais vraiment, trois potes incroyables. Et là, tu comprends comment cet équipage a quand même mis derrière des Tom Christensen, des Alan McNish. Enfin, il y avait quand même du très, très lourd à l'époque.
Ton petit resto, c'était en centre-ville, près de la gare.
Comment tu sais? Ah oui, de toute façon, il n'y avait pas de kebab étoilé au fond de la campagne sartoise. Voilà, en tout cas, c'était intéressant. C'était un petit bonbon qu'on voulait vous offrir dans cette semaine des 24 heures du Mans qui débute. Évidemment, on va en parler. Vous allez les voir, les 24 heures du Mans, sur l'antenne d'Eurosport. Vous allez lire les articles de Stéphane, de tous ceux qui écrivent, transcrivent brillamment tout ce qui va se passer sur le circuit de la Sarthe jusqu'au départ et jusque surtout à l'arrivée de cette édition du centenaire. C'était quand même pas mal d'avoir Benoît avec nous.
Jamais déçu.
Allez, on va se quitter là-dessus. On rappelle que ce podcast, Les Fous du Volant, même donc les numéros hors série, sont visibles sur Acast, sur Apple Podcast, bref, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve la semaine prochaine pour parler cette fois éventuellement un peu quand même du résultat de ces 24 heures du Mans. Toi, j'ai l'impression que tu as quand même un petit favori quand même. Hein. Je vois ton t-shirt là.
Non, mais enfin, je pense que la raison l'emportera. Toyota part avec une longueur d'avance, on va dire. Mais
il l'a dit.
La présence de Ferrari est particulièrement excitante. On attend aussi beaucoup de Peugeot, qui nous doit un petit peu un rebond, on va dire, en termes de performance. On y croit, on est confiant.
Avec les voitures à effet de sol, parle pas trop de rebond.
Porsche et l'histoire aussi. Et puis, Jacques Villeneuve, etc. Enfin, les grands noms, des belles marques qui sont engagées. C'est vraiment la fête qu'on attendait, qu'on nous avait annoncé il y a plusieurs mois, il y a quelques années, 3-4
ans. Oh oui, ça fait plusieurs années qu'on attend.
On y est et on va se régaler.
On trépigne. Donc on se retrouve la semaine prochaine dans Les Fous du Volant. Et d'ici là,
on coupe le contact.